franceinter.fr.
C'est la revue de presse avec Philippe Lefébure. Bonjour Philippe.
Bonjour. Aux États-Unis, qu'est-ce qui aujourd'hui fait plus de morts que les accidents de la route, que les armes à feu dont on parle tant, et qui a fait plus de morts l'année dernière que la guerre du Vietnam et de la guerre d'Irak réunies? La réponse est en une du Figaro ce matin, la drogue. Et on apprend que Donald Trump pourrait très bientôt décréter l'état d'urgence dans tout le pays. En 15 ans, un demi-million d'Américains sont morts d'une overdose. En 2015, dernière statistique officielle connue, citée par le quotidien, il a été recensé plus de 52 000 overdoses fatales, 13 000 à la suite d'injections d'héroïne, mais surtout 20 000 dues à des produits prescrits sur ordonnance. Le fentanyl, un antalgique de synthèse, présenté comme 100 fois plus puissant que la morphine, est l'un des produits dérivés de l'opium. Est largement prescrit aux États-Unis. C'est lui qui est responsable, par exemple, de la mort du chanteur Prince l'année dernière. Le Figaro envoyait son journaliste Philippe Gelly à Wilmington, en Caroline du Nord. Joli port sur la rivière Cap de la Peur, à 20 km de l'Atlantique, écrit-il. Une municipalité qui s'est découverte un beau matin être la ville américaine la plus affectée par ce qu'on nomme là-bas la crise des opioïdes. 12% de la population de la ville dépendante. Les trois quarts de ces personnes accros à l'héroïne, lit-on, ont commencé en détournant les médicaments de quelqu'un d'autre. Le maire pointe la responsabilité des médecins qui ont prescrit des antidouleurs sans mesure pendant des années. Aux États-Unis, les labos pharmaceutiques commencent à être pointés du doigt et on débat d'une solution plutôt radicale proposée par un shérif de l'Ohio. Laisser mourir les récidivistes en overdose s'ils ne sont pas capables de payer l'injection d'un antidote. La crise des opioïdes aux États-Unis, c'est à lire ce matin dans le Figaro. Dans l'affaire qui suit, c'est un dopage que certains dénoncent. L'exemple clair de dopage financier d'un club état, le PSG Qatar. Ça, c'est le coup de gueule d'un dirigeant du football professionnel espagnol, cité dans l'éditorial de La Croix ce matin. Dirigeant qui ne décolère pas après le départ du Brésilien Neymar pour le Paris Saint-Germain. Il arrive, titre en gros l'équipe. Et toute la presse française embraye, parle évidemment et commente ce contrat du siècle pour le football français. Alors, en la lisant cette presse ce matin, on apprend tout de cette star planétaire, 25 ans, une première sélection en équipe nationale du Brésil à 18, 90 buts en 145 matchs au Barça, 112 cartons jaunes depuis le début de sa carrière, 239 dribbles réussis la saison dernière, 34 tatouages et bientôt un hôtel particulier à Neuilly. Des millions de followers ou d'amis sur les réseaux sociaux, un objet marketing pour beaucoup. Alors si on sait tout de lui, on a plus de mal effectivement à décortiquer le montage financier qui a permis l'arrivée de Neymar au PSG. Il est aussi obscur que les racines du monothéisme, s'amuse d'ailleurs Libération. C'est une œuvre d'art, en fait, pour un quotidien espagnol. Parce que ce montage permet au club parisien de rester dans les clous des règles financières imposées par les instances européennes du football, alors qu'il a fallu payer une somme folle au FC Barcelone, 222 millions d'euros. C'est dans le Figaro qu'on trouve un début d'explication. Et c'est là qu'on en vient au dopage d'un club état. C'est un fonds du Qatar, propriétaire du PSG, qui aurait signé un contrat de prestation de service avec le Brésilien. Neymar devrait devenir ambassadeur de la Coupe du Monde de 2022 au Qatar, contre une somme colossale. Et c'est avec cet argent que le joueur a payé lui-même les 222 millions réclamés par son club. Sans oublier au passage la prime de bienvenue et la rétribution des intermédiaires. Alors l'énormité des sommes en jeu alimente un bon nombre d'éditos. Dans le Midi Libre, par exemple, Jean-Michel Servan ose un rapprochement. Le PSG s'offre pour plus de 300 millions Neymar. Et le même jour, le gouvernement annonce une réduction des dotations territoriales équivalentes peu ou prou. La preuve, selon lui, que notre société accorde aujourd'hui plus d'importance à l'individu qu'à la collectivité. Dans Libération, Grégory Schneider, en édito, parle de déconnexion lunaire de toute cette affaire. Mais le réel est pour bientôt. Dans quelques semaines, Neymar jouera dans la boue à Angers avec un mauvais arbitre, un défenseur agressif et une petite bruine. Ça nous fera du bien.
Philippe Lefébure, à part Neymar, dans la presse, qu'y a-t-il ?
L'argent, encore. À la une des Échos, ce que paient les plus riches en manchette. Le journal a épluché les dernières données fiscales publiées par Bercy, qui montrent, selon le quotidien économique, le degré de concentration de l'impôt sur le revenu. Les contribuables déclarant plus de 100 000 euros par an ont payé plus de 40% des recettes de cet impôt, alors qu'il ne représente que 2% des foyers fiscaux. Pour Daniel Fortin, c'est de la démagogie fiscale. Il cible le quinquennat Hollande, tiré au canon fiscal sur les agents économiques les mieux à même de sortir une économie de l'ornière est un non-sens, écrit-il. Dans l'Obs qui sort aujourd'hui, on peut aussi y lire un autre avertissement pour vous, Gérald Darmanin. Le spectre de la cagnotte, c'est l'édito de Mathieu Croissando. Je résume, la croissance économique est de retour en France. Elle va gonfler les recettes de l'État, plus que prévu. Et comme à chaque fois que c'est arrivé, un débat sur la cagnotte va ressurgir. Mathieu Croissando trouve qu'avec une dette de plus de 2000 milliards, c'est un concept très relatif du point de vue économique, mais d'un point de vue politique, c'est plus compliqué. Parce qu'il lit, s'explique-t-il, la nécessité de faire des efforts ou des sacrifices et tempère généralement l'ardeur réformatrice des ministres concernés. Alors, Gérald Darmanin, il y a une cagnotte.
Alors, effectivement, avec 2200 milliards de dettes, il n'y a pas beaucoup de cagnotte, oui, c'est sûr.
Donc, pas de bonnes surprises. Vous êtes sûr, vous ne cachez pas des bonnes nouvelles qui vous permettraient de boucler un budget en fin d'année.
Qu'il y ait l'année prochaine une croissance plus importante parce que le président de la République et le Premier ministre redonnent confiance au pays et aux acteurs économiques, nous l'espérons. Mais même une croissance plus importante ne va pas nous empêcher de faire des économies et changer nos méthodes.
Bon, le débat budgétaire au Parlement, c'est pour cet automne. En tout cas, pour l'heure, députés et sénateurs achèvent leur session extraordinaire. Hier, au Sénat, la commission des lois a validé la nomination de Michel Mercier au Conseil constitutionnel. Les révélations du Canard enchaîné détaillant dans quelles conditions le sénateur employait sa fille, on en parlait ici même hier, n'ont pas pesé, ont constaté les journalistes qui ont suivi la séance. Valérie Acco dans Le Parisien explique que ces révélations ont même eu l'effet inverse. Ceux qui hésitaient à voter pour lui l'ont fait. Tout le monde a trouvé un peu gros que cet article sorte le jour même de l'audition. Ivan Trippenbach de l'Opinion a aussi trouvé les collègues de Michel Mercier très compréhensifs. La socialiste Catherine Tasca, par exemple, citée. L'explication donnée spontanément par Michel Mercier, c'était légal à l'époque, me suffit pour le moment, a-t-elle déclaré en séance. Ajoutant, je suis très attaché à la non-rétroactivité des lois, feignant d'ignorer, ajoute la journaliste, que ce qui est en cause, c'est le caractère présumé fictif et non familial de l'emploi. À l'Assemblée, c'est la prolongation des travaux parlementaires qui fait encore beaucoup parler. Session prolongée jusqu'à mercredi prochain, 9 août, pour adopter définitivement la loi de moralisation de la vie politique. Un coup de communication pour le député communiste André Chassaigne, cité par Le Figaro, qui ironise quelle belle image que celle des députés au travail en plein mois d'août pour nettoyer les écuries d'Augias. Le site Les Jours raconte dans le détail pourquoi ce report a été décidé. Le blocage de la loi organique et la question de la réserve parlementaire. En commission mixte paritaire, Sénat-Assemblée, le gouvernement s'est retrouvé en minorité et a préféré renvoyer le débat en séance, explique Nicolas Cory. Long papier et vrai plongé dans la mécanique parlementaire. C'est très instructif. Le résultat, c'est que le vote final est donc reporté la semaine prochaine. Mais Les Jours ne seront pas là pour vous raconter tout cela. L'auteur de ces lignes, écrit Nicolas Cory, qui avait posé ses vacances à ses dates, a décidé de s'en tenir au calendrier prévu et de conclure. Il n'est pas élu de la nation, lui.
C'était la revue de presse avec Philippe Lefébure. Dans quelques instants, on retrouve Gérald Darmanin.